France Musique. France Musique, musicienne de légende, Marina Chiche.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Musicienne de légende, notre rendez-vous estival autour des grandes interprètes de l'histoire. Dans l'épisode précédent, nous avions suivi la conquête progressive du violoncelle par les interprètes féminines au XIXe siècle. Avec la libération de la posture grâce à l'introduction de la pique, les femmes commencent à s'imposer comme violoncellistes de premier plan, de véritables pionnières et aventurières qui n'ont pas froid aux yeux, de la française Lise Christiani partie sur les routes de Sibérie à la violoncelliste britannique Beatrice Harrison ou encore la flamboyante portugaise Guilhermina Sujia. Le chemin vers la professionnalisation et la reconnaissance des femmes violoncellistes est en marche. En 1900, c'est une nouvelle génération qui naît et qui va définitivement consacrer des reines du violoncelle. En France tout d'abord, Lucienne Radis et Madeleine Monnier se distinguent. Deux femmes aux jeux remarquables et au parcours de vie assez exceptionnel qui font carrière à l'étranger. Sur France Musique, nous écoutions la violoncelliste Madeleine Monnier dans le deuxième mouvement du concerto de Lalo. Née à Paris en 1900, Madeleine Monnier sillonne la planète au cours des années 20 et 30. Elle jouit d'une grande notoriété, faisant régulièrement la couverture de magazines musicaux. Madeleine Monnier joue un rôle important dans la musique de son époque. Par exemple, elle crée en France la redoutable sonate de Kodály pour violoncelle seule et elle est la dédicataire d'œuvres de Jacques Ibert, dont elle crée le concerto pour violoncelle et instruments à vent en 1926 avec l'orchestre L'Amoureux sous la direction de Paul Paré. C'est une soliste de calibre international qui joue en Angleterre, en Espagne et aux États-Unis en soliste avec les plus grands orchestres. Thank you. Nous écoutions la danse espagnole de Granados, transcrite pour violoncelle et piano sous les doigts de Madeleine Monnier. En 1936, sa carrière prend un tournant inattendu. Après avoir épousé un violoniste italien rencontré par l'intermédiaire du chef d'orchestre Arturo Toscanini, sa vie change du tout au tout. Le couple s'installe dans une ferme en Italie et Madeleine Monnier range son violoncelle dans un coin, un magnifique Montagnana qu'elle ne ressortira plus jamais jusqu'à la fin de sa vie. Un tournant radical, de soliste internationale à gardienne de chèvres. Une autre Française née en 1900 et qui s'imposa comme soliste, c'est Lucienne Radis. Violoncelliste virtuose, Lucienne Radis connut des heures de gloire, principalement au cours de la première moitié du XXe siècle. D'une grande beauté, elle ne laissait personne insensible. On lit dans la presse, difficile de savoir si Lucienne Radis est plus agréable à regarder ou à écouter. Faute de réponse à cette question, nous avons fait les deux. Sa carrière prend rapidement de l'essor lorsqu'elle enregistre pour Radiola, la toute première station de radio privée fondée en 1922, qui deviendra en 1924 Radio Paris. Elle fait alors d'innombrables tournées. Mais Lucienne Radis ne se limitait pas au violoncelle. En 1932, elle acquit un brevet de pilotage et tourna dans un film, The Bluffer, film hollywoodien à grand succès. Sur France Musique, nous écoutions le chant du soir de Schumann, transcrit pour violoncelle et piano sous les doigts de Lucienne Radis, une de nos musiciennes de légende. Outre des vols dangereux aux côtés de Jean Mermoz, Lucienne Radis aime faire des rallyes automobiles qu'elle remporte à plusieurs reprises. Savoir-faire qu'elle met à profit en conduisant des ambulances pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore une violoncelliste aventurière dans l'âme, à l'instar de Lise Christiani partie sur les routes de la Russie. D'ailleurs, du côté de la Russie, c'est une autre reine du violoncelle, à la technique formidable et aux allures de star hollywoodienne, qui émerge. Née en 1909 à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, Raya Garbousova est élevée avec peu de nourriture, mais beaucoup de musique. Son père est trompettiste solo à l'Orchestre symphonique de Tbilissi. À 4 ans, elle commence le piano, mais après avoir entendu un ami de la famille jouer de la contrebasse, cet ami n'est nul autre que le célèbre Sergueï Koussevitzky, futur maestro du Boston Symphony. La petite Raya est subjuguée par les sonorités profondes de la basse. Son père résiste à ses supplications. Les femmes ne jouent pas du violoncelle, un point c'est tout. Mais lorsque Raya refuse de travailler son piano, il finit par céder et lui achète un petit violoncelle. Raya a 6 ans. Elle se développe si vite qu'elle est immédiatement acceptée au conservatoire. Elle travaille comme une folle, mais petite fille curieuse, elle passe son temps auprès d'un tailleur qui habite son immeuble et qui l'initie aux grandes œuvres littéraires, et auprès d'un cordonnier qui l'initie à la philosophie. Sur France Musique, nous écoutions le menuet de la petite suite de Claude Debussy, transcrit pour violoncelle et piano, sous les doigts de Raya Garbusova. À l'âge de 15 ans, Raya fait ses débuts officiels avec les variations rococo de Tchaïkovski à Moscou puis à Leningrad. Elle est alors très demandée comme partenaire de musique de chambre par d'autres jeunes artistes russes de l'époque, un certain Nathan Minstein ou encore Vladimir Horowitz. En 1925, elle quitte l'Union soviétique et se rend à Leipzig pour étudier avec le grand professeur Julius Klengel, le professeur de Guillermina Soudja ou encore de Grégor Piatigorsky. Mais après l'avoir écouté jouer pendant plusieurs heures, toutes les études les plus difficiles de Piatti, Grootsmacher, Popper et les concertos de Davidoff, Klengel secoue la tête avec stupéfaction et déclare « Mademoiselle, je regrette, je n'ai rien à vous apprendre ». Thank you. La danse moldave de Stanislav Golestan par Raya Garbusova au violoncelle. Garbusova fait ses débuts à Paris en 1927. Elle y rencontre Pablo Casals, qui lui donne quelques cours et l'encourage à étudier auprès de l'un de ses amis, le violoncelliste Diran Aleksanian, véritable gourou de la musique, qui enseigne à l'école normale. Il devient son principal mentor et influence profondément son approche de violoncelle. 7 ans plus tard, elle fait ses débuts à New York. Et en 1939, elle émigre définitivement aux États-Unis. Elle commence alors à enregistrer de nombreuses œuvres du répertoire.
Thank you.
Nous écoutions la violoncelliste Raya Garbusova avec le pianiste Arthur Balsam dans la sonate de Debussy. Raya Garbusova a tout pour elle. Une magnifique sonorité, une technique formidable et une allure de star de cinéma. Les photos promotionnelles de cette époque parlent d'elle-même. Elle est l'amie des plus grands musiciens, Piatigorsky, Rachmaninov, Ubermann, Sighetti, Feuermann ou encore Erika Morini. Mais Raya ne se contente pas de tout cela. Elle souhaite élargir le répertoire de violoncelle. Ainsi, elle commande des œuvres à plusieurs compositeurs. Elle assure aussi la création américaine de plusieurs œuvres, dont la troisième sonate de Martinou ou encore la sonate pour violoncelle de Prokofiev, une pièce écrite en 1949 pour le jeune violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Le deuxième mouvement de la sonate de Prokofiev pour violoncelle et piano par Raya Garbusova et le pianiste David Stimmer. Avant cela, Raya Garbusova avait demandé au compositeur américain Samuel Barber de lui écrire un concerto. Elle le crée en 1946 avec l'Orchestre symphonique de Boston sous la direction de Sergei Koussevitzky, celui qui avait déclenché sa vocation pour le violoncelle. Elle redonnera cette œuvre avec le New York Philharmonic dirigé par Dimitri Mitropoulos un an plus tard. Elle laisse un enregistrement de référence de ce concerto qui sera un de ses chevaux de bataille, ainsi qu'un autre enregistrement de référence de la sonate du même compositeur, Samuel Barber.
Thank you.
Nous écoutions un extrait de la sonate de Barber par la violoncelliste Raya Garbusova, une très belle version de celle qui deviendra une professeure légendaire dans plusieurs universités nord-américaines.
France Musique, musicienne de légende, Marina Shish.
Une autre grande violoncelliste qui suscita l'admiration du compositeur américain Samuel Barber, c'est la canadienne Zara Nelsova. Nelsova enregistra d'ailleurs, elle aussi, une version de référence du concerto de Barber, sous la direction du compositeur lui-même. Née en 1918 à Winnipeg, au Canada, dans une famille de musiciens immigrés russes, Zara Nelsova traversa tout le siècle. Ses débuts se font comme enfant prodige aux côtés de ses sœurs aînées, Ida, violoniste, et Anne, pianiste. Ensemble, elles forment le Canadian Trio, dans lequel le père, flûtiste professionnel, diplômé du conservatoire de Saint-Pétersbourg, investit tous ses espoirs artistiques et financiers. Grâce à une bourse du gouvernement canadien, la famille s'installe à Londres, mais les conditions sont rudes. Zara fait ses débuts en 1931 dans le concerto de Lalo avec l'Orchestre symphonique de Londres. Elle a 13 ans.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions l'intermezzo du concerto pour violoncelle et orchestre en ré mineur d'Edouard Lalot avec l'Orchestre Philharmonique de Londres dirigé par Adrian Boult. La soliste était Zara Nelsova sur son magnifique Stradivarius de 1726. Après des tournées éreintantes en Australie et en Afrique du Sud, le trio des jeunes sœurs s'arrête. Les parents de Zara décident d'émigrer en Australie. La grande sœur Anne se marie. Voilà Zara laissée seule en Europe à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, seule en charge de son autre sœur, en proie à des troubles mentaux. Il est temps de rentrer au Canada. Zara intègre alors pendant 3 ans l'Orchestre symphonique de Toronto pour subvenir à ses besoins. À force de persévérance et de rencontres chanceuses, Zara va réussir à être engagée comme soliste, faisant ses débuts à New York en 1942. Dans les années 40, elle va étudier auprès de 3 des plus grands violoncellistes du XXe siècle, Pablo Casals, Gregor Piatigorsky et Emmanuel Feuermann. Dotée d'un charisme exceptionnel sur scène, Zara est qualifiée par la presse de « reine du violoncelle » tout au long de sa carrière. Elle fermait systématiquement les yeux pour se concentrer quand elle jouait, ce qui donnait une intensité extraordinaire à son jeu d'une grande noblesse. Elle avait pris cette habitude dans l'enfance, quand elle était contrainte de travailler dans la même chambre que sa sœur violoniste, chacune jouant dans son coin. Avec les yeux fermés, elle arrivait à atteindre un degré de concentration incomparable.
Thank you.
Sur France Musique, nous écoutions La Prière, un extrait du cycle de la vie juive, From Jewish Life, d'Ernest Bloch, par Zara Neltsova et le compositeur lui-même au piano. Par son jeu intense, sa sonorité profonde et son vibrato serré, Zara est d'ailleurs une interprète favorite d'Ernest Bloch. Elle suscite aussi l'admiration de chefs d'orchestre comme Ernest Ansermet, qui l'invite aussitôt après l'avoir entendu à jouer sous sa direction à Genève. Sa carrière est lancée en Europe. Zara fait une telle impression sur les orchestres avec lesquels elle joue qu'un jour un violoncelliste, subjugué par son jeu, vient la voir à la fin de la répétition et lui dit « Vous jouez si bien qu'il ne me reste plus qu'à casser mon propre violoncelle ». Et ce qu'il dit fut aussitôt fait. À la stupéfaction de Zara Neltsova, il fracasse le violoncelle devant elle. Je vous rassure, il s'agissait d'un violoncelle de peu de valeur acheté pour l'occasion. Zara Neltsova enregistra au long de sa carrière les grandes pages concertantes du répertoire, ainsi que les sonates de Beethoven, Brahms ou Rachmaninoff, mais aussi des pages moins connues, comme le premier concerto en sol mineur de Dimitri Kabalevski, un concerto écrit en 1949 comme musique de propagande à l'intention de la jeunesse soviétique. Thank you. Nous écoutions l'allegro du premier concerto de Dimitri Kabalevski avec Zara Nelsova en soliste avec l'orchestre de la radio berlinoise dirigé par Gerd Albrecht en 1965. On entend les doigts de la main gauche de Zara Nelsova frapper la touche, une articulation d'une clarté extraordinaire. Zara Nelsova tient son archet d'une manière très organique, un transfert d'énergie parfait sur la baguette où elle enfonce les crins de la mèche profondément sur la corde. Avec son vibrato tout aussi intense et serré, cela en fait une interprète idéale pour la rhapsodie « Shlomo » d'Ernest Bloch, une œuvre qu'elle joua partout, ce qui lui valut de Bloch lui-même le surnom de « Madame Shlomo ». Il existe une très belle vidéo sous la direction de Leonard Bernstein où on la voit magistralement jouer, les yeux fermés, toujours. Au disque, Nelsova laisse trois enregistrements de référence de cette œuvre, dont une sous la direction du compositeur. Thank you.
Thank you.
Exceptionnelle Zara Nelsova dans le Shelomo d'Ernest Bloch, une de ses œuvres fétiches. À la fin de sa vie, Zara Nelsova devient une grande professeure, notamment à la Juilliard School de New York de 1962 à 2002.
France Musique, musicienne de légende, Marina Shish.
J'aimerais maintenant vous faire entendre un enregistrement assez rare capté par la radio canadienne d'un concert en trio avec piano à l'été 1954. Zara Nelsova est entourée par le violoniste Alexander Schneider, membre du célèbre quatuor de Budapest, et par un jeune pianiste âgé d'à peine 22 ans, un certain Glenn Gould. Zara Nelsova a alors une grande expérience du trio depuis le trio de son enfance avec ses sœurs et le trio formé dans les années 40 avec le pianiste-compositeur Ernest Macmillan et la grande violoniste Kathleen Parlow. Lors des répétitions de ce festival, Sacha Schneider, musicien très expérimenté, et le jeune Glenn Gould s'affrontent. De cette répétition, Zara Nelsova raconte « Glenn se présentait le matin, le visage jauni, après avoir passé la nuit à lire Tolstoï. Il était si jeune, si pressé de jouer. Il avait d'étranges idées au sujet de Beethoven, mais nous finissions par lui faire abandonner la plupart d'entre elles. »
Thank you.
sur France Musique. L'Allegro vivace con brio, le premier mouvement du Trio des Esprits de Beethoven, avec le pianiste Glenn Gould, le violoniste Alexander Schneider et notre grande violoncelliste Zara Nelsova. Un enregistrement de concert de 1954. Voilà, la route est prête pour qu'émerge une superstar du violoncelle. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci à toute l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Florian Henault et Julien Douminc. Cet épisode est disponible en replay sur le site de France Musique et en podcast sur l'appli de Radio France. On se dit à dimanche prochain, 16h.
À réécouter sur francemusique.fr.